Radio Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Nous allons parler à présent des dangers de la désinformation sur le processus électoral. Nous avons déjà en ligne Henri-Christian Longenja, secrétaire exécutif du collectif 24, une structure qui fait la promotion du droit d'accès à l'information. Henri-Christian, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission et tout à l'heure nous aurons également le professeur Kojon Dukuma, expert en droit numérique. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à la désinformation et la mésinformation. Appelez-nous sur le processus électoral, appelez au 099 706 9941, 099 706 9941. Dans la seconde partie de cette émission, nous allons parler de la prévention des maladies d'origine hydrique en cette période des inondations. Vous avez suivi, il y a des inondations dans plusieurs coins du pays. Comment prévenir les maladies d'origine hydrique ainsi que les épidémies? Nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission avec Dr. Anissé Kipassa, expert en santé publique. Pour participer à ce magazine, écrivez-nous à service@radiookapi.net, postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission. Et appelez au 099 706 9941. Paul Badianyama à la mise en onde, Tati Mapoukoua sur la coordination et la réalisation de cette émission au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous. Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler, échanger sur les dangers de la désinformation et la mésinformation sur le processus électoral. Vous savez, la désinformation et la mésinformation sont de plus en plus fréquents sur les réseaux sociaux et sur certains sites internet, particulièrement à cette période post-électorale. Les fausses nouvelles sont fabriquées et relayées dans les groupes WhatsApp, pages Facebook et autres. Les gens diffusent à longueur des journées des vidéos, des audios et textes pour désorienter le public, ternir l'image de certains candidats ou jeter un discrédit sur la crédibilité du processus électoral. Conséquence, beaucoup d'internautes sont devenus méfiants. On ne croit plus à rien, même si on se retrouve devant une information qui est vraie, mais il y a toujours des doutes. On ne sait pas si est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Alors comment lutter contre la manipulation de l'opinion publique, la désinformation, la mésinformation sur le processus électoral? Henri-Christian Longenja, vous êtes secrétaire exécutif du collectif 24, une structure qui fait la promotion du droit d'accès à l'information. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à Maître.
Alors, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance de la désinformation sur le processus électoral?
Oui, mais effectivement, vous vous souvenez tout au long de ce processus, depuis que pendant la période post-électorale, nous n'avons jamais cessé de le dire que c'était de bonnes guerres où chacun fait créer des mésinformations, distille les désinformations pour disqualifier les autres. Mais maintenant, là, la montée après les élections, c'est-à-dire en période post-électorale, la montée a un seul but. Et le but, effectivement, c'est chercher à disqualifier les processus, montrer que les choses se sont mal déroulées et puis disqualifier en même temps les pays. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on décrit les processus, qu'on sent qu'il y a des choses qui se sont mal déroulées et qu'on en profite pour amplifier. Justement, c'est pour créer encore même une crise de légitimité et voire même des conflits post-électoraux. Donc, la mésinformation, même en période post-électorale, est suicidaire pour le pays et même pour la crédibilisation même du processus et pourquoi pas voire même pour la crédibilisation des institutions qui seraient issues de ces élections. Et c'est ça les combles de la désinformation où on fabrique, certains prennent même des vidéos d'anciens, tout ça parce qu'ils ne savent pas comment vérifier, quand bien même qu'il y a les vrais qui sont là et on profite des vrais pour ajouter aussi les faux et amplifier pour donner une nouvelle vision, une manière autre de voir les choses et du coup les institutions qui seront issues de ces élections puissent ne pas être acceptées par tous et créer cette crise de légitimité.
Oui, on a vu par exemple des vidéos un peu partout à travers le pays. On montre des gens avec des machines, les dispositifs électroniques de vote en train de voter dans des chambres, au salon, à gauche, à droite. Tout ça, ça commence à semer les doutes dans l'opinion.
Bon, effectivement, il faut dire que nous avions lancé les observateurs, qu'on a des vidéos et nous avons des techniques pour checker des vidéos. Ce n'est pas toutes les vidéos qui sont correctes. Nous avons des méthodes pour checker les vidéos, pour checker des photos et voire même les sons. Il y a du bon et il y a du mauvais aussi. Les mauvais, c'est quoi? On prend par exemple quelques vidéos où on formait les agents électoraux, on les fait passer comme des vrais, comme étant des bourrages. Quand bien même on sait que la vérité est que il y a eu aussi beaucoup de cas presque disséminés sur toute l'étendue du pays. Il n'y a pas vraiment un coin qui peut se prétendre qui était épargné avec ces pratiques, surtout avec les machines, les devs et les matériels sensibles entre les mains des personnes non autorisées. Mais il faut avouer que certains aussi ont profité de ça, du réel, pour amplifier. Donc, quelques vidéos qui circulent, ça n'a pas objectif que l'amplification de la situation, mais cela ne dit pas que c'est toujours faux et que ça n'a pas été le cas. Il est vrai vraiment qu'il y a eu des cas de fraude. Bien, heureusement, les gens se faisaient soit filmer avec l'idée de montrer à leur leader que voilà, vous voyez, moi j'ai fait le travail. Malheureusement, ça a tourné contre eux et c'est ça les comptes.
Bien, alors ceux-là qui fabriquent les mauvaises informations, les fausses informations, les amplifient, quelles sont leurs intentions?
Ben, l'intention justement, c'est lorsqu'ils pensent que surtout si vous prenez les camps des candidats, quand un candidat malheureux doit toujours montrer que voilà, les choses se sont mal déroulées et il va prendre, s'il y avait par exemple 8 cas, lui ajoute même 2 ou 3 pour en faire 10 ou 11. Et à ce moment-là, on va dire que c'est encore beaucoup, c'est encore légion. Mmh. Et ça, justement, c'est pour démystifier ou
soit discréditer le processus.
Les processus, c'est ça l'objectif. Mmh. Mais et ce qui est vrai que par rapport à ce qui s'est passé, et surtout que les gens profitaient avec l'allonge des élections qui est partie du 20 jusqu'au 26 dans certains bureaux, et tout cela a créé des tollés, et puis on a commencé à trouver des cas de machines par-ci par-là et auprès des personnes non autorisées, et c'est la question que nous avons même posée à la CENI, pourquoi les machines étant une propriété privée de la CENI se sont retrouvées entre les mains des personnes non autorisées, alors que la CENI n'a jamais déclaré quelque part la perte des machines. Alors ces gens-là ont eu ces machines aussi. Mais ça c'est un fait réel qu'il y ait ce phénomène-là des machines, des bulletins de vote, même des bulletins, les urnes ainsi de suite, entre les mains des personnes non autorisées. Mais dans les bureaux, ça manquait. Je prends par exemple les bureaux, moi-même, j'étais observateur, on manquait de machines, on manquait même, plus grave, on manquait même l'urne. Il y avait, si vous allez en Gaba, complexe coréen Wembo, vous allez en Epoko, vous allez en Buku, en Gaba, il n'y avait pas d'urne. On a pris les cartons, et on a pris les bassins pour en faire des urnes, mais après on arrête quelqu'un, une autorité, avec des devs et des urnes entre ses mains, alors que les bureaux officiels n'avaient pas d'urne ni d'isoloir. Alors, donc, ça posait énormément de problèmes, mais ce sont des faits vrais, mais seulement qu'il faut avouer que c'est des bonnes guerres. Certains en profitent et prennent même les vidéos de 2018, voire même 2011, mm-hmm. et commencent à amplifier. Certains, nous avons même vu, vous voyez le vidéo qui était passé à Lemba, à Ngaba, au complexe coréen Mbuku, avec les bourgmestres de Ngaba, mais on prend le même vidéo, on écrit, non, ça c'est le bourgmestre de Lemba. Alors que c'est une vidéo de Ngaba et non de Lemba, et on amplifie. Mmh. On prend le même vidéo qui s'est passé, par exemple, à Isiro, on le fait passer, non, ça s'est passé à dans tel coin, ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas de technique pour checker les vidéos, mmh. vous allez croire que c'est le même cas qui s'est répercuté partout, alors que c'était l'unique cas, mais qu'on a répercuté par-ci, par-là, et pour dire que ça s'est fait comme ça partout. Mais nous, en checkant, on sait que non, ça s'était fait à tel endroit et non là-bas où on est en train de dire que ça, les faits se sont déroulés. Mais
Et Henri Christian, le drame, c'est que ces vidéos-là sont, il y a des gens qui croient tout de suite et qui les relaient et qui les partagent.
Malheureusement, c'est ça. Les gens ne savent pas. Voilà pourquoi nous-mêmes, au niveau du collectif interne, nous disons, il est important que nous puissions amplifier des formations, des sensibilisations par rapport à la désinformation, par rapport à des fake news, par rapport à la mésinformation, comment les découvrir, pour que nous allons vraiment chercher des moyens pour qu'on arrive même au niveau des écoles, partout, que les gens sachent comment checker. Sinon, la loi sur le numérique est là, et lorsqu'on diffuse, on partage tout ça sans le vérifier, demain, on peut être surpris d'être condamné. Mais il faudrait que les gens savent. Parce que lorsque je prends le faux, je partage, j'encourage en même temps ces faux-là. La meilleure méthode, c'est de stopper. Alors, nous souvent, même avec mes collègues au bureau, dès qu'on check, on voit que c'est le faux, nous disons, il faut pas partager. Par contre, nous répondons à la personne qui a envoyé dans le groupe, disant que ça c'est faux, que ça s'est passé à tel endroit, ce n'est pas ce que vous dites, et d'ailleurs ça c'est l'image de 2018, ce n'est pas 2023, et ainsi de suite. Mais il est important vraiment que même au niveau des ministères, au niveau du gouvernement, dans les cours surtout qu'actuellement il y a les numériques, le gouvernement au niveau de l'EPST veulent doter même les élèves avec des tablettes intelligentes, ce qui voudrait dire qu'ils vont faire face à toutes ces choses-là. Alors il est important aussi qu'ils introduisent des techniques comme ça, former les enfants, les initier, et qu'on puisse vraiment vulgariser toutes ces techniques pour que tout le monde soit capable de découvrir les vrais et les faux, et à ce moment-là, ça peut aller. Et que je pense que même au niveau de la CENI, ils doivent utiliser les mêmes techniques parce qu'actuellement, c'est les gens frisent avec autant de preuves, ils ramassent quelque part dans un groupe, ils disent non, ça c'est vrai, ils ramènent, il faudrait aussi
que vous savez, Henri Christian, on dit souvent que la nature a horreur du vide. Lorsque la CENI elle-même ne communique pas assez sur Internet, ça va aller dans tous les sens.
Oui, effectivement, le mal de la CENI que nous avons toujours condamné, c'est ça, et que vous voyez que même dans ce processus, la culpabilité de la CENI n'est pas épargnée, bien que certains pensent que non, la CENI a fait du bon travail, et ainsi de suite, Mais la CENI est responsable de beaucoup de choses qui se sont déroulées. Vous prenez par exemple les DEV, tout ça. Et la CENI jusqu'à aujourd'hui ne dit pas combien de DEV ils avaient commandé et combien de DEV ont été disparus pour se retrouver entre les mains des particuliers.
Un instant, on va accueillir un auditeur, Omar Kigalo de Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Monsieur Jeudi et bonjour à l'invité.
Bien, nous parlons de la désinformation et la mésinformation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Merci très cher Jeudi. C'est devenu monnaie courante et ça frise l'immoralité. Et moi, je voudrais partager avec l'invité et tous les auditeurs sur la manière de vérifier l'information. Vous êtes mieux informé que moi en termes journalistiques. On m'a toujours dit qu'il faut avoir la critique. Lorsque vous avez affaire à une vidéo, à une information, c'est ce qu'on appelle la vérification de la source. Et vous savez distinguer les sources. Il y a des sources officielles, il y a des sources premières. Hier, par exemple, il y avait un procès en direct au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour vérifier, je suis allé au site de la Cour constitutionnelle. Si déjà les Congolais doivent tenir compte de la source qu'ils diffusent, on aurait bien fait. Deux, la crédibilité de la personne qui informe. Il faut voir quelle est la personne qui est en train d'informer ou quelle est la personne qui a diffusé. Mais par rapport aux solutions, je dis, moi je pense qu'il y a un problème sérieux. Je suis parmi ceux qui ont combattu et qui continuent à critiquer la promulgation rapide du code numérique. Le numérique est un monde très sensible, très complexe, très technique. Comment voulez-vous appliquer le numérique si on est mal éduqué numériquement? Beaucoup de Congolais ne maîtrisent pas le numérique. Il faut commencer par le dire. Si vous lisez la loi sur le numérique, il y a plein de termes techniques. La robotique, l'encodage, les cryptomans, la cryptologie. Comment on va comprendre? Or, ce sont des notions qui permettent aux illustrateurs que nous sommes d'initier un fake news et une mésinformation. Il faut qu'on commence par l'éducation numérique au niveau des écoles, des universités, même des entreprises publiques. De deux, il faut l'application de ce code. Cette code a comme avantage une innovation d'avoir érigé en infraction toute image qui porte atteinte à la moralité. Aujourd'hui, on a des gens qui s'évertuent à couper les messages du chef de l'État. Le chef a parlé, on coupe, on met là d'autres images pour le salir. Il y a d'autres qui font des fake news. Alors, au-delà de l'éducation qui nous permet de dénicher une mauvaise image, il faut que l'autorité puisse sanctionner tous ces cybercriminels. Trois, il y a toute une politique qui a été mise en place. Il y a quatre agences qui ont été créées pour lutter contre la cybercriminalité. Qu'est-ce qu'on en fait, M. Jody? Ce sont des notions importantes. Moi, le jour où j'ai vu les sites de TV5 Monde être piratés pendant 48 heures, j'ai eu peur. Donc la guerre numérique est même plus puissante que la guerre mondiale aujourd'hui sur le plan des armes. Il faut qu'on y penche. Sinon, on se réveille bon matin, on voit M. Jody nu, et on fait un fake news sur vous. On a vu ça avec beaucoup de candidats. Il y a des gens qui montrent des images pour les salir. On fait comme si quelqu'un était en plein débat sexuel. On prend son visage, on prend un autre corps, on mélange. Et ça paraît comme vrai. Alors si nous sommes éduqués numériquement, si on sanctionne ces gens-là, je crois que ce sera vrai utile. Voilà mes préoccupations. Mais je voudrais finir avec mes deux questions, monsieur l'invité. Qu'est-ce que nous devons réellement faire pour mettre fin à cette désinformation sur le numérique? Des deux, que pensez-vous de ces youtubeurs qui passent, de ces facebookers, de ces tiktokers qui passent, qui insultent, qui font tout, et qui sont libres et qui continuent à circuler? Voilà mes deux préoccupations, très cher Jody. Je vous remercie.
Bien, merci maître Omar Kigalo. Augustin, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Merci aux éditeurs de la radio.
Quelle est votre question, Augustin?
Eh bien, monsieur Jody, je dois tout d'abord vous dire que monsieur Sac, donc le conseil de l'air en communication, les associations de la communication doivent essayer de sortir un système de désactivation. Donc, il doit désactiver tous les gars, toutes les radios, il doit essayer de faire des choses. Vous voyez des gens vraiment infirmes, une information qui semble vraie, la population est vraiment étouffée, on n'arrive pas à bien prendre ça comme une information. Voilà,
Bien, merci. Merci pour cette intervention, Augustin de Kananga. Henri Christian, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
Oui, bon, effectivement, je pense que avec le premier auditeur, on m'a posé des questions de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, la deuxième question, c'est que par rapport à tous ces youtubeurs, les gens qui sont dans le Facebook et ainsi de suite. Par rapport à la première question, je dirais que dans son intervention, dans sa contribution, il y a une partie de la réponse. Alors, j'ai parlé lorsque j'évoquais que même au niveau de l'enseignement, il faut qu'on introduise les matières par rapport au numérique, parce que aujourd'hui, le monde est dirigé par le numérique. Tout est géré par le numérique. La guerre n'est plus, comme il disait, n'est plus toujours une guerre présentielle. On peut être ici à Kinshasa et attaquer un pays de loin. Donc, tout est devenu numérique. Et aujourd'hui, après l'alphabet, c'est le numérique maintenant qui colonise tout le monde. Et que si on ne connaît pas le numérique, on devient aussi analphabète. Donc, ça, c'est le premier point. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut continuer des formations, des sensibilisations, pour que tout le monde ait quand même, ne serait-ce que le minimum de connaissances par rapport à ça. Parce que l'accès à l'information, c'est l'accès à des connaissances. Il faut que tout le monde ait ses connaissances et à ce moment-là, ils peuvent faire face. Alors, par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire avec les youtubeurs et ainsi de suite, et là, je vois par rapport à sa contribution lorsqu'il parlait des sources, là, je suis d'accord avec les sources, qu'il faut vérifier les sources, mais lorsqu'il parlait de personnes crédibles, là, j'ai un peu de doute parce que la crédibilité de la personne est définie par rapport à quoi? Aujourd'hui, nous voulons qu'il ait une information populaire et la vraie information. Parce que, vous voyez, j'ai toujours dit, la les informations, les communications qui se font dans les médias, dans les organes, se font parfois sur base de leur ligne éditoriale. Aujourd'hui, il suffit seulement de voir ce que la RTNC diffuse comparé avec Nyota TV, vous allez voir des tendances. Alors, la crédibilité est où? Donc, c'est ça le grand problème. Vous pouvez voir, on est dans des missions d'observation. Un fait vrai ou une déclaration vraie fait par une mission qu'on considérait une petite mission, parfois ça passe inaperçu, personne ne s'occupe, mais lorsque c'est la mission Cinco et CC ou tout ça, alors tout le monde amplifie parce qu'il s'agit des évêques. Or, la vérité n'est pas que dans la soutane, la vérité aussi peut être auprès du Chegue. Donc, la crédibilité de la personne, moi je le dis, ça dépend du rang où on se retrouve parce qu'on sait que le ministre peut aussi tromper, ce n'est que des bonnes guerres. Aujourd'hui, on a vu des personnes que la CNA a invalidées. Mais ces personnes, hier, avant l'invalidation, avaient un discours. Mais maintenant, après l'invalidation, ils ont un autre discours. Ils commencent à s'entre-attaquer entre eux. Donc, c'est pour dire que la crédibilité, oui, mais ce qui est important, c'est vérifier l'information, quelle que soit la source, parce que le faux n'est pas toujours faux. Dans le faux, on peut trouver du vrai. Mais quelle que soit la source, il est important de vérifier.
Alors, bien, il est toujours important de vérifier. Nous parlons aujourd'hui des dangers de la désinformation sur le processus électoral. Comment lutter contre cela? Des questions et préoccupations, eh bien, appelez au 099-706-9941. 099-706-9941. Bien, nous allons accueillir à présent Marc Tchata, il est journaliste et stagiaire ici à Radio Okapi. Marc, bonjour.
Bonjour Jody.
Alors, vous étiez sur le terrain pour interroger les uns les autres par rapport à cette question de la désinformation. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez constaté?
Oui, Jody, nous étions sur le terrain et le constat général que nous faisons, c'est d'abord l'intérêt qui suscite cette thématique. Il y a des papas, il y a des jeunes, il y a des mamans qui sont vraiment intéressés par cette thématique. Alors, pourquoi les gens sont-ils autant intéressés par cette thématique de la désinformation ou même de la mésinformation? Eh bien, c'est parce que chaque personne interrogée est déjà tombée une fois sur une fausse information ou a déjà été victime d'une fausse information, soit sur les réseaux sociaux, même sur certains sites internet. Internet. Alors, si certaines personnes ont voulu partager leur expérience en rapport avec la désinformation, d'autres ont évoqué différentes causes de ces phénomènes. On note, par exemple, l'avènement des réseaux sociaux, qui est même considéré par certains experts comme étant une véritable usine de fausses informations. Il y a également ceux qui pensent que c'est le manque de formation en technique de l'information et de la communication qui est ou qui serait la principale cause de la désinformation. Alors, je vous laisse suivre quelques avis collectés sur le terrain à ces sujets.
Merci. Déjà, oui, il y a quelques jours, je vis une information, on a écrit CENI. La CENI disait que non, la rentrée scolaire a été repoussée et tout. Moi, j'ai compris que c'était faux parce que normalement, c'est pas la CENI qui doit annoncer ça, c'est le ministère de l'enseignement. Puisqu'on a écrit, on avait écrit là-bas sur la photo la CENI, et ensuite, ils ont mis, et là, j'avais vite compris que tant que le ministère de l'enseignement ne confirme pas cela, ça, c'est quelqu'un qui veut faire passer un faux message au travers la CENI. Ça, c'est mon expérience à moi que j'ai sur la désinformation.
Bon, d'abord, je pense qu'à l'heure actuelle, où le monde a atteint un certain niveau de technologie, le monde a évolué, ce n'est pas comme le monde d'il y a 10 ans ou 20 ans. L'apparition d'abord de TikTok, où tout le monde peut faire n'importe quoi. Tout le monde peut, en se filmant, il peut créer une chose qui peut larguer sur les réseaux sociaux. Et nous sommes sur, dans le contexte d'une population qui n'est pas bien rodée, qui n'est pas bien informée dans cet outil. Lorsqu'on ramasse une information sur le net, on croit que c'est une, on croit que c'est une information officielle.
En tout cas, les gens se mettent à prendre des informations brutes et parfois les autres se mettent à fabriquer les informations. Question de se faire une popularité, surtout dans les réseaux sociaux. Et c'est là même la cause. Parce que les gens se disent, non, moi si j'ai fabriqué l'information, au lieu d'aller à la source, et je vais me taper les vues et d'autres. Et voilà ce qui est à la base de cette désinformation.
Donc, premièrement, j'aimerais dire, lorsqu'on parle de la désinformation, bien des informations fausses, je peux dire comme on appelle le fake news, après, ce genre de formations sont promulguées chez des personnes qui sont premièrement pas du domaine de la communication. Par exemple, une personne qui n'a juste fait des formations sur le journalisme ou bien sur la communication, il n'aura pas la même capacité de transmettre une information qu'une personne qui a bien travaillé ou bien qui a passé des études sur la communication. Voilà pourquoi ce sont ces genres de choses qui créent des fake news, mais des informations mauvaises. Et en plus, j'aimerais juste ajouter, pas seulement eux, mais il y a aussi des gens qui sont du domaine des journalistes, qui ont terminé même à l'IFACI, mais qui font des fake news. Tout ça pourquoi? Pour recevoir de l'argent, si je peux dire. C'est un peu ça.
Voilà, ils font des fake news pour recevoir de l'argent d'après lui. Alors Marc, par cet élément, on constate que la population semble être informée au sujet des causes de la désinformation. Alors, ces personnes sont-elles aussi conscientes des conséquences de la désinformation?
Oui, c'est une très bonne question que vous venez de poser. Alors oui, la majorité des personnes interrogées à ces sujets sont vraiment conscients ou semblent être conscientes des dégâts et conséquences que peuvent créer la diffusion ou la propagation des fausses informations. Alors ils sont tellement conscients de ces conséquences qu'ils n'ont pas du tout hésité à passer quelques conseils et même quelques astuces pour reconnaître une fausse information et même comment éviter des fake news. Alors, je vous laisse également écouter ces deuxièmes éléments.
Comme on n'a pas la culture de vérifier la source officielle, la vraie information, alors beaucoup se laissent emporter par des fausses informations qui peuvent avoir des conséquences néfastes ou des troubles. Mais je pense que la situation actuelle, la population est assez mature. Même une fausse information, il y a quand même assez de réserves, et c'est comme ça que les choses évoluent. Mais le constat, c'est que la masse ne vérifie pas la vraie source d'information, et c'est la crainte. Et quand il n'y a pas une source, n'importe qui peut venir et il largue une information, et voilà, il risque de trouver derrière lui une masse.
par exemple.
Oui, celle-ci a vraiment, celle-ci plutôt, a déjà a vraiment des conséquences. Par exemple, aujourd'hui, c'est la rentrée, mais oui, où sont les élèves? Quand tu marches, tu vois qu'il y a peu d'élèves qui sont partis à l'école et tous, ils ont en tête que la rentrée a été repoussée. Ça, c'est l'une des conséquences. La société voit vraiment ce qu'ils voient sur l'internet. Sur des publications internet et tout, et ce n'est pas une bonne chose, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Ça, c'est ça aussi une conséquence que moi j'avais.
Donc premièrement, lorsque vous avez besoin d'une information, il faut la puiser à la source. Exemple, comme Radio Okapi, c'est déjà une source fiable lorsqu'elle diffuse ces informations, c'est-à-dire ces informations sont bien certifiées. Mais lorsque vous allez sur Internet, vous tapez un média X, Y, peut-être qui est dénommé par le nom d'une personne, ça sous-entend que cette personne peut faire fabriquer ses informations dans sa chambre et les diffuser. Mais il cherchera même à vous faire croire que non, cette information est vraie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est de s'appuyer sur les médias qui sont crédibles.
Un conseil que je vais donner, c'est juste d'avoir la confirmation officielle de l'État. Quand on publie toujours quelque chose, il faut toujours attendre que... C'est ça, moi, RTNC, les gens ne suivent pas les journaux. C'est ça le problème avec les Congolais. On ne suit pas les journaux. Il faut attendre qu'on en parle officiellement. C'est ça. Il faut avoir la confirmation avant de croire à tout ce que vous voyez sur Internet.
Bien. Merci beaucoup, Marc Tchata, pour... ce travail réalisé sur terrain par rapport aux fake news, à la désinformation et à la mésinformation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jody.
Bien. Henri-Christian Longenja, vous êtes toujours en ligne. Votre réaction par rapport à ce que vous venez de suivre?
Bon, je pense que Jody, tout le monde, nous mettons d'accord qu'il faut se référer à la source. Mais la grande question qu'on peut se poser est que, est-ce que les gens ont accès à cette source-là? C'est ça le grand problème. Parce que s'il faut aller à la source, alors que la source ne diffuse pas, ne donne pas l'opportunité à tout le monde d'accéder à la vraie information, c'est comme ça que d'aucuns se voient, bon, c'est un vieux qui m'a dit, et puis je vais là-bas, il dit quoi à sa manière, il publie. Et que là, ça expose la population devant les dangers. Et que moi je dis, parmi les causes, c'est le manque de, comme j'ai toujours dit, de la loi d'accès à l'information. Parce que si cette loi était là, si cette loi devrait même accompagner le processus électoral, je pense que certaines choses allaient changer. Mais c'est comme c'est une loi de la transparence, parfois les politiques n'ont pas voulu que ça accompagne et que nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la désinformation en période post-électorale. Mais pourquoi ces cas aussi sont arrivés? Parce que vous arrivez dans un centre local de compilation, on chasse les observateurs, on chasse les témoins. Mais c'est eux qui doivent voir ce qui se passe. Mais lorsque vous les chassez, mais c'est ça la source. Mais ils vont dire, voilà, on nous a chassés. Et lorsque l'observateur dit que, voilà, on nous a chassés, du coup, de l'autre côté, quelqu'un distille une information mauvaise, que bon, voilà, on a bourré dans tel centre, les gens vont croire tout simplement parce qu'ils vont dire, ah, ils avaient chassé les observateurs, ils avaient chassé les témoins, c'est pour ne pas voir cela, donc c'est vrai, et même si ce n'est pas vrai. Donc, cette culture du secret, c'est ce qui a fait même nous amener à tous ces débats. Parce que, vous savez, je dis, même la CENI, contrairement à des groupes précédents qui donnaient même le plan de dissémination des matériels, la CENI a voulu garder tout cela secret. Et en gardant secret, vous voyez les conséquences du secret, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est pour dire que le secret a toujours des conséquences néfastes. Alors, il faut vérifier la source, c'est bon, mais il faut que l'autorité, ceux qui nous gèrent, puisse faciliter et qu'avec un cadre légal qui permette à ce que tout le monde ait à la source et arrive à avoir la vraie information. Mais lorsqu'il n'en a pas, alors le vide a peur de l'horreur, l'horreur a peur du vide, et du coup, chacun va continuer à fabriquer à sa manière et ça nous amène à des conséquences. Et parmi les conséquences de la mésinformation ou désinformation en période post-électorale, comme je disais, non seulement ça discrédite les processus, mais ça amène aussi des troubles.
Henri-Christian, est-ce que les gens ont le temps d'aller, par exemple, visiter les sites internet de la CENI régulièrement pour avoir les bonnes informations?
Bon, le problème, il faut avouer, je veux dire que le site, il y a. Je ne sais pas, on n'a pas encore mené vraiment des enquêtes pour savoir combien les gens visitent le site de la CENI. Et il y a lieu d'entrer dans le site pour savoir, ils ont combien de visiteurs. Et généralement, ces visiteurs proviennent d'où? Parce que avec les statistiques de le site, on peut savoir quel est le pays qui visite plus votre site et quel genre d'informations ils cherchent plus. Mais on n'a pas encore fait ce genre de recherches pour en savoir. Mais en ce qui nous concerne, nous visitons toujours le site de la CENI, à tout moment. Mais la CENI, comme disons, communique toujours tard. Vous voyez même les questions de publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est venu tard. Il y a des choses que vous pouvez aller chercher dans les sites de la CENI, vous n'allez pas les trouver. Même aujourd'hui. Donc, la CENI a un peu une dose de secret qu'elle est en train de perpétrer et tout ça, ça crée des tollés, ça crée des rumeurs, ça crée des imaginations et chacun maintenant va tirer des conclusions à sa manière et lorsqu'elle vient corriger, ça devient tard parce que la vérité vient lentement, mais la mésinformation, c'est du mensonge, ça a déjà envahi le monde, et vous allez venir chercher à corriger, c'est déjà tard.
C'est déjà tard.
C'est pour ça que nous avons déjà toujours dit à la CENI, il faut communiquer, et communiquer bien et à temps, et en temps réel, là où c'est nécessaire.
Bien.
Mais lorsque vous gardez les choses secrètes,
et
ça crée des problèmes, et du coup, ça nous amène à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que si la CENI avait communiqué, par exemple, que voilà, nous avons disposé, commandé autant de devs, autant de bulletins, autant de PV, autant de ceci, voilà comment nous les déployons par rapport à autant de bureaux, ainsi de suite, il y aurait lieu de faire la traçabilité et savoir où est-ce que ces gens ont trouvé des devs et des bulletins de vote et tout ce qu'on est en train de déplorer aujourd'hui.
Bien.
Et surtout, ce
n'est
pas le moindre, ce sont des autorités qui ont détenu tous ces matériels-là. Et là, ça discrédite et tout, et c'est ça les dangers.
Bien, on va accueillir Bienvenue de Kinshasa et puis l'honorable Honoré de Kananga. Bienvenue, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la désinformation? Bienvenue, vous êtes là? Il n'est plus là. Honorable Honoré, bonjour.
Oui, bonjour, Mathis Gossi Daniel.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la désinformation et à la mésinformation sur le processus électoral?
Bon, merci de la parole, monsieur le journaliste, monsieur Nkachama, Radio Fassi, Service. Vous savez que la situation est belle bien finie chez nous en RDC. Donc il y a des sérieux problèmes par rapport au problème des élections. Donc, je dirais que les élections ont été bien organisées, mais il y a des petits soucis par rapport à certaines choses. Donc, je dirais que il y a des problèmes que moi, j'ai constaté, c'est par rapport au problème de tricherie. Alors, je me demande, et il y a l'une des questions que je me pose par rapport au problème de tricherie, comment le présumé candidat à la députation nationale ainsi qu'à la députation provinciale, comment ils ont trouvé la machine à voter pour aller tricher à un endroit X ou Y, du temps que les autorités de la CENI n'étaient pas au courant de viols, de révélation de machines à voter. Donc comment la personne qui ne sont pas dans la boîte peut trouver la machine à voter et aller se voter lui-même à côté, du temps qu'il y avait des policiers, il y avait le chef de d'antenne dans des différents... des différentes circonscriptions électorales. Alors, comment cette situation peut se dérouler, tant que eux-mêmes, les autorités de la CENI, ne sont pas au courant. Donc, j'aurais souhaité que les dirigeants de la CENI puissent nous éclaircir par rapport à cette situation. Parce qu'on ne peut pas toujours faire les débats, tant qu'eux-mêmes savent ce qu'ils ont fait. Et, aujourd'hui, on dit que non, il y aura des candidats qui seront invalidés, ils vont perdre leur mandat, ils ne seront pas à la course. Alors, ça va donner beaucoup de soucis au pays. Ce n'est pas tout le monde qui sera content.
Merci, donc, honorable.
Ou la loi électorale.
D'accord, merci, honorable. Henri-Christian Longenja.
Bon, je pense que honorable parle plutôt, je ne sais pas s'il était candidat aussi, mais c'est, je peux quand même glisser un mot quand bien même que ça ne cadre pas avec notre sujet du jour. où nous parlons des conséquences de la désinformation en période de post-électorale. Mais c'est une question que même nous, au niveau du collectif 24, nous avons adressé une correspondance à la CENI pour que la CENI nous dise comment ces gens-là se sont retrouvés avec les biens privés gardés par la CENI, alors que nulle part on a vu une plainte où la CENI s'est plainte qu'on a volé les matériels et est-ce que ces matériels n'étaient pas escortés par la police, ainsi de suite. Ce sont des soucis que la CENI doit expliquer et je me dis, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre et qu'on a observé, la responsabilité de la CENI n'est pas écartée. Quand bien même la CENI est en train de chercher à se laver, se sanctifier et tout ça, mais la CENI a une grande responsabilité par rapport à tout ce qui s'est passé.
Bon,
mais
ça c'est un autre aspect.
C'est un autre sujet.
Alors, revenons à notre sujet du jour. On parle beaucoup plus de la désinformation. Un instant, Harry, on va accueillir, on va donner la parole à Bienvenue qui est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la désinformation?
Ouais, j'étais en train de dire la désinformation, les fake news aujourd'hui, c'est une gangrène qui n'est pas dans aucun pays dans le monde. Mais dans les cas qui est le nôtre, parce que c'est un cas plus précis, moi, j'aurais voulu que la CENI, qui est l'entité organisatrice des élections, puisse communiquer de façon quotidienne. Parce que lorsque la CENI communique de façon un peu régulière, je crois que cela peut dissuader tous ces gens-là qui ont toujours cette tendance de faire véhiculer les mauvaises informations. Parce que là où il n'y a pas de l'information, les personnes mal intentionnées, les personnes de mauvaises intentions puissent peuvent profiter de ces temps-là, de ces temps-là mort pour qu'ils puissent véhiculer les mauvaises informations. Mais si au moins l'entité qui organise les élections communique de façon régulière, donne de bonnes informations, je crois, cela peut dissuader tous ceux qui ont cette intention-là de véhiculer les mauvaises informations. Si bien qu'aujourd'hui, il est difficile de contourner de cette crise, mais néanmoins, si la CENI communique de façon assez régulière, on peut, si pas endiguer, mais néanmoins diminuer l'intensité de ces désinformations.
Merci, bienvenue, Harry-Christian Longenja.
Oui, bon, effectivement, c'est une contribution que le compatriote a donnée, et je pense que tout ça, ça rebord à ce que nous disons, il est important que, par rapport à cette gangrène, que ceux qui nous dirigent prennent leurs responsabilités. Prennent leurs responsabilités, d'abord, le ministère du numérique et le ministère de la communication devraient trouver des stratégies efficaces pour l'éducation au numérique, l'éducation à l'information, et comment on doit tout faire pour que chacun soit capable de vérifier le vrai ou la fausse information.
Maintenant, comment vérifier côté, on parle de plus en plus du fact-checking, vérification. Comment cela doit se faire pour ne pas tomber sur une fausse information?
Il y a des techniques qui sont à la portée de tout le monde. Vous allez, par exemple, au niveau de YouTube, il y en a. Vous allez au niveau de même Facebook avec Beta. Il y a des dispositions qu'il faut vérifier sur la photo, tout ça est correct. Même au niveau de Google vous donne la possibilité de vérifier les vidéos. Est-ce que ces vidéos n'ont pas été prises quelque part? Parce que ou soit la photo n'a pas été prise quelque part. Et à ce moment-là, vous allez voir que, surtout en ce qui concerne les guerres ou des problèmes de clash, ainsi de suite, des manifestations, les gens ont l'habitude, par exemple, de prendre ce qui se passait, par exemple, à Afghanistan et le transposer dans un autre pays. Mais lorsque vous checkez ça, ça va vous montrer autant de fois, même la première fois que cela a été posté, et ça a été posté où, par qui, et à quelle heure et à quelle seconde.
Quels sont les outils qui peuvent nous aider à checker, à vérifier les informations?
Au niveau de Google, il y a ce qu'on appelle le système de check, check viewer. Et lorsque vous entrez là, ça vous permet, voyez, lorsque vous ouvrez la page Google, il y a des endroits en bas où ça vous montre, soit pour des photos, soit pour les vidéos, tout ça. Et dès que vous ouvrez le lien, vous téléchargez votre vidéo parce que ça se trouve dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Et vous téléchargez. Et lui, maintenant, va faire des tours, va faire des recherches pour vous montrer si ces vidéos n'ont jamais été diffusées. Et si ce n'est qu'une seule fois, il va vous montrer que ces vidéos se trouvent qu'une seule fois. Parce que tout ce qu'on est en train d'envoyer là, on envoie ce soit par YouTube, par ceci, Google est en train de capitaliser tout ça, en train de capter. Alors, autant de fois que Google voit ça, il essaie aussi de comptabiliser, de garder, et Google va vous dire, l'image ici, ou les vidéos ici, a été publiée, par exemple, 50 fois. 50 fois, et la première fois que cela a été publié, c'est à tel endroit, à telle heure, ainsi de suite. Mais si c'est ce qui est réel, non, par exemple, dans le cadre des élections qui se sont passées, si c'est un fait réel, il va vous dire que vous allez voir que c'est l'unique fois que cela a été publié, et ça va vous dire à quel endroit ça a été publié, et là c'est vrai. Mais là, vous voyez déjà que c'est plusieurs fois, et que surtout, nous parlons dans des élections de 2023, et que vous voyez une vidéo où ça vous montre que c'était même en 2011, du coup c'est un faux. Alors, donc, ça demande, c'est vraiment technique, ça demande des moyens de sensibilisation pour que les gens puissent comprendre comment on vérifie tout ça et éviter. Et c'est là où je dis qu'il est important que même dans le cursus de la formation de nos enfants dans des écoles, qu'on puisse introduire ce genre de cours ou soit de matières, mais pourquoi pas même dans les universités, pour que tout le monde soit capable de vérifier, parce que c'est une arme, c'est un bombe, pardon, une bombe à destruction massive, la désinformation et la mésinformation.
Bien, on va accueillir Jérémy de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour également à l'invité. Bon, moi, je me dis, bonjour. La désinformation, c'est devenu une monnaie courante ici dans notre pays, parce qu'à telle enseigne que même ceux-là qui sont censés détenir les médias ne semblent pas maîtriser les choses. Parce que vous vous souviendrez que quand nous sommes à l'RDC, vous allez voir que les gens se fuient soit aller suivre la radio Capi, soit je sais pas RFI ou Top Congo. Bon, alors, et d'autres. Bon, moi je me dis, à ce stade-là, ce qui veut dire qu'on est en train de... Les gens s'adhèrent à ce que... Là où on peut trouver des informations fiables et convaincues. Parce qu'il y en a, on peut habiller la planche autrement. Une scène s'est passée autrement, mais vous avez deux personnes, mais chacun interprète de sa manière. Voilà les grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Vous regardez aujourd'hui, et vous pouvez voir même sur place, lorsque... Il y a eu les élections. Vous allez voir, les gens vont dans de tels centres, les autres recueillent des informations autrement. Tout est au défend de ceux-là qui sont censés donner des informations fiables. Et moi, je me dis, il fallait s'attaquer directement à la cybercriminalité. C'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, nous disons que non, après tout, la récréation et la liberté ne signifient pas libertinage. Il faut nécessairement que les ministres ayant en charge ce secteur puissent travailler comme il se doit. Il doit normalement travailler concomitamment avec ce sac pour voir comment est-ce que les médias évoluent, comment est-ce que l'information circule à travers les gens, et voir même instruire aussi le politique congolais qui, du reste, semble vraiment perturber l'inquiétude de la population. Au jour d'aujourd'hui, on se dit, mais et on est en train de voir ceux-là qui sont censés diriger et vraiment ne semblent pas vraiment donner des informations fiables et vérifiables à leurs militants. Vous allez voir que lorsqu'il y a une information qui est là, vous allez voir lorsqu'ils descendent à leur base, ce qu'ils donnent, qu'ils font gober à leurs militants comme information, c'est autre chose que ce qui est prévu. Vous voyez déjà là-bas, ça crée déjà des frustrations lorsqu'il y aura la raison, la vraie version.
Voilà, d'accord, merci. Merci beaucoup Jérémy. Henri Christian.
Oui, bon, exactement, je pense que ce que le compatriote vient de dire, c'est correct, parce qu'en fait, il vient de citer les médias. Mais les médias, je me dis, c'est comme lui-même disait, devant un fait, et nous le voyons par rapport même à des commentaires qui se font par rapport à ce processus électoral, on attrape quelqu'un avec des devs, c'est un fait vrai. Mais vous allez voir les médias commenter autrement. Ceux qui sont pour le pouvoir vont minimiser que non, c'est faux, mais d'ailleurs, même si on l'attrapait, ça va influencer quoi. Ces médias vont vous faire des commentaires tels que la RTNC et les autres, vont commencer à vous faire des commentaires. Mais il y a d'autres qui vont prendre le même effet qui est vrai, mais ils vont aggraver dans les commentaires, ainsi de suite.
La manipulation.
Alors, tout ça, Oui, ils vont manipuler l'opinion pour montrer que c'est vraiment grave, de suite, et commencer à évoquer beaucoup de cas pour avoir l'annulation des votes. Alors, donc, ça c'est un problème réel. Et dans ça, même ceux qui nous dirigent, même les autorités, communiquent mal, et les autorités contribuent même à la désinformation. Lorsque les autorités vous disent, par exemple, que non, voilà, tout était bien passé, mais un élément comme l'urne, c'est un élément important, le matériel le plus important dans un bureau de vote. Mais lorsqu'un bureau de vote est pas loin, à Kinshasa, manque l'urne, et on prend les cartons, on prend le bassin comme urne, je me pose la question, comment on a transporté les bulletins jusqu'au centre local de compilation? Et c'est à Kinshasa, et c'est un fait vrai. Mais on va vous dire, les autorités, vous allez apprendre, vous dire, non, c'est Bénin, vous savez, c'est combien de bureaux, si autant de bureaux, alors que nous avons toujours dit, dans le processus électoral, quelqu'un peut passer à cause d'une seule voix seulement, il passe. Quelqu'un aussi peut perdre à cause d'une seule voix. Parce que la majorité, c'est la sommation d'une voix, une voix, une voix, une voix. Alors, lorsque vous commencez à négliger une voix, une voix, une voix, ça diminue. Tout comme lorsque vous ajoutez une voix, ça s'augmente.
Oui.
Donc, mais certaines autorités vont vous dire, mais ça représente quoi, et ainsi de suite, nous devons avancer,
beaucoup d'auditeurs sont revenus également sur l'éducation des masses, de la population.
Exactement, parce que si vous allez dans les partis politiques aujourd'hui, nous les observons, dans les QG des partis politiques, vous allez voir ceux qui sont, par exemple, de l'Union Sacrée, et ils sont là, non, tout s'est bien passé, bravo, la CENI, ils applaudissent, et ainsi de suite. Parce que ce qui tisse notre pays, c'est ce que je peux appeler la flatterie, les jalousistes, tout ça. Au lieu de dire les choses telles que ça se fait, on pense satisfaire l'autorité, on pense le faire du bien, tout en le flattant. Et demain, lorsque ça tourne autrement, c'est toujours le même. Nous voyons maintenant avec ce qu'on a invalidé, les discours qu'ils sont en train de tenir aujourd'hui, alors qu'hier, ils ne tenaient pas ce genre de discours. De l'autre côté, vous allez dans les partis de l'opposition, tout ce qu'ils distillent auprès de leur population, c'est toujours l'article 64, c'est le chaos, ainsi de suite, il faut brûler, il faut ceci. Et c'est ça le grand problème. Et de part et d'autre, on commence à manipuler, on commence à produire les vidéos, les sons, pour montrer d'une part que les choses se sont bien déroulées, d'autre part pour montrer que les choses ne se sont pas bien déroulées, et ça devient des bonnes guerres. Et donc tout ça qui ont pâti, c'est la population qui est consommatrice de toutes ces fausses informations, et c'est le pays qui en pâtit encore de plus, parce que ça discrédite le pays par rapport à tout ce qui se passe. Donc, il y a ici des questions de responsabilité de tout un chacun. Le gouvernement doit vraiment mettre les mécanismes pour qu'on éduque bien la population. Même le collègue a dit qu'il faut appliquer la loi sur les cybercriminalités, la loi sur les numériques, mais il faut former les gens. Parce que je me dis, même ceux qui ont voté cette loi-là, parfois eux-mêmes ne maîtrisent pas les termes qu'ils ont votés. Et des fois, c'est eux-mêmes qui sont à la base aussi de tout ce que nous sommes en train de vivre, alors que c'est eux qui ont voté. Donc, c'est pour dire que c'est une loi tellement technique et qu'il faut vraiment former les gens. Je dirais même
il faut la
simplifier à des termes très simples, si je peux me répéter ainsi. La simplifier et
la rendre accessible à la grande masse.
Accessible à tout le monde et à chaque niveau. Vous voyez, par exemple, certains médias, vous voyez, je prends TV5, vous trouvez TV5 pour les enfants, TV5 pour les adultes. Et même au CAPI, il y a les programmes pour les enfants. et pour les adultes.
Merci. Alors, merci Henri Christian.
Parce que pour que ça soit accessible à tout le monde.
Merci Henri Christian Longenja. Il y a vraiment nécessité de vulgariser cette loi sur le numérique, numérique afin de lutter contre la désinformation. Henri Christian Longenja, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du collectif 24, une structure qui milite pour la promotion du droit d'accès à l'information. Excellente journée et à la prochaine.
Merci, à la prochaine, et merci à tous les auditeurs de la Radio Capi.